Radio Campus Lille sur le 106.6 de la bande FM et sur le DAB+. Nous sommes en compagnie de Yana Bills, comédienne, conteuse et écrivaine voyageuse. Véritable globe-trotteuse, elle glane des histoires aux quatre coins de la planète pour le plus grand bonheur de ses lecteurs et de son public. Nos âmes nomades est paru aux éditions Unicité en 2019. Alors Yana Bills, vous n'en êtes pas à votre premier grand périple. Qu'est-ce qui vous fait partir sur les routes du monde ?
Alors ça, c'est une vaste question. Je pense que c'est un besoin tellement vital, quelque chose qui est en moi de façon intrinsèque, déjà qui relève d'une vie reliée à la nature, reliée au voyage depuis toujours, parce que c'est vrai que j'ai toujours pérégriné au hasard des contrées. Et au fil du temps, ce désir s'est approfondi dans... aller vraiment dans le sens d'un voyage d'écriture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un voyage de découverte, parce que sur un voyage d'écriture, il y a aussi l'idée de pérenniser une parole, une mémoire, des souvenirs, des rencontres, de fixer dans ce temps éphémère qui est celui du voyage, parce que le voyage est vraiment, pour moi, la métaphore la plus forte et la plus belle de l'existence. On ne fait que passer, on est des passants et on regarde les beautés du monde, on s'émerveille, on découvre comme un enfant qui ne connaît rien, la musique, la culture, le langage, les rites, les traditions, le sacré, tout ce qui peut être extraordinaire, unique et aussi en voie d'extinction, parce que évidemment, on le sait, que tout ce qui fait cette mosaïque des peuples, des cultures, des croyances, est en train de se faire absorber par cette immense mondialisation. Alors voilà, c'est nouveau pour personne. Et cette écriture me conduit vraiment dans une rencontre, et avec moi-même, parce que vraiment, le voyage est un dépouillement où on chemine vers l'inconnu et à la rencontre des peuples, des traditions, des rites, de la spiritualité, des arts, des beautés, de tout ce qui est fascinant, extraordinaire. Parce que là aussi, c'est vraiment mon axe de voyage. Je ne vais pas parler de la misère du monde, même si je la vois, parce que je me place plus en tant qu'artiste qu'en tant que journaliste. Et je vais relever ce qui est merveilleux et ce qui est peut-être à garder dans le cœur avec des images, avec des photos et surtout avec des récits d'une poésie de la route.
Et c'est ce qui rend vos livres optimistes et effectivement très agréables à lire. Et puis le voyage, c'est le temps présent et ce présent, vous le consignez dans vos livres. Alors du coup, j'avais une question sur la route. Je me disais, est-ce que c'est la route qui vous fait écrire ou c'est l'écriture qui vous fait prendre la route ? C'est un peu les deux.
Alors le vent du voyage se met à souffler et c'est vrai que c'est irrésistible. Donc la route déjà me prend. La route est un chemin plus fort que le chemin. C'est presque une destinée. C'est aussi pour moi, en tant qu'artiste, je dis que c'est mon grand atelier du monde. C'est là où je vais créer. C'est là où tout d'un coup va me venir une idée de livre, mais aussi de spectacle. Parce que parfois, dans ces contes que je recueille du monde, eh bien, je vais offrir ça aux adultes, aux enfants, que ce soit des contes initiatiques ou bien aussi différents contes sur la spiritualité et l'avancée dans la conscience. Donc ça peut prendre vraiment différentes formes. Et c'est ce gigantesque terrain d'exploration où on s'explore soi-même, où on explore en miroir l'autre, cet animal étrange, mais qui est une part de nous. Et cette étrangeté, on la retrouve en nous. Et c'est cette fusion, en fait, entre soi et l'autre qui fait qu'on avance dans le chemin du cœur à la découverte de ce qui est extraordinaire dans notre condition d'humain et de voyageur.
Et du coup, la route de la soie est la route du soi, bien évidemment. Alors, aussi loin que vous remontiez dans votre mémoire, vous avez un premier souvenir de voyage ?
Alors, les premiers souvenirs de voyage que j'ai, eh bien, j'étais trop petite pour les avoir, parce que je suis née nomade. Mes parents, avant de construire, de retaper une vieille maison dans les montagnes du Jura, étaient nomades. C'était la période des années 70, la période
baba cool.
Hippie, voilà. Et ils cheminaient, bon, à cette époque, on n'allait pas forcément aussi loin que maintenant, mais c'était à travers l'Europe. Ils se promenaient, ils vivaient. Et moi, j'ai grandi quelques jours par-ci, quelques jours par-là. dans la nature. Les photos que j'ai de ce moment-là, de ma mère qui est toute jeune, qui est ravissante, en mini-jupe, sur les sentiers des forêts. Et moi, je suis en permanence dans la nature. Donc, reliée aux éléments, reliée à quelque chose d'essentiel, qui m'a permis plus tard de rentrer facilement en contact avec les peuples premiers de différentes cultures, d'ailleurs, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, qui vivaient dans un sens du sacré, entourés de nature et qui étaient reliés à leurs émotions, à leurs vibrations, au bruit de la nature, aux signes aussi que cela provoque. Et quand je rencontrais, par hasard qui n'existe pas, comme j'aime dire, selon des synchronicités de voyage, ces peuples-là me comprenaient et très souvent me disaient mais tu viens de chez nous, on ne parle pas la même langue, tu es blonde, tu es occidentale, mais ta réincarnation, ou tu viens de chez nous, tu es là. Et c'est ça que je trouvais très beau parce que je les comprenais, je faisais des rituels dans la forêt, j'étais voilà, cet instinct qu'ont les enfants aussi de vivre simplement dans cette nature en fait, qui est initiatique et qui est extrêmement puissante pour une connaissance qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais qui est une connaissance intuitive d'un chemin à prendre, de la vie, de l'être humain.
Et vous pensez que c'est cette éducation, pour le moins pas banale, qui vous a incité à garder cette capacité d'émerveillement ?
Ah oui, je pense que ça y a fait beaucoup. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec le théâtre à l'adolescence, qui a fait que cet émerveillement, parce que bon, nous sommes venus vivre à Paris, donc la vie extérieure a changé. Mais cet émerveillement, je l'ai retrouvé dans la beauté des textes, dans l'interprétation des personnages, dans une grandeur émotionnelle à partager, à faire passer. Parce que le théâtre, ce sont des êtres humains aussi qui, à travers une situation donnée et des émotions, racontent une histoire. Et à travers cette histoire, il y a une conscience qui peut s'ouvrir parce que l'autre, en miroir, justement, reçoit et il y a des points communs avec sa propre histoire. Et voilà, c'est très fort pour moi, cette idée de voyage artistique aussi.
Et puis finalement, on pourrait dire que le comédien est presque un chaman. Mais bon, ça irait un petit peu trop loin. Donc, après l'Amérique du Sud et votre livre, donc, Soleil Citron Vert, pourquoi aujourd'hui êtes-vous allé vers l'Est et sur cette mythique route de la soie ?
Alors, cette route de la soie, elle m'a fascinée de toute éternité. C'est-à-dire que j'ai été aussi baignée dans le 19e siècle, dans tous ces auteurs, ces poètes, ces peintres, avec la mode de l'orientalisme, qui allaient vers cette route de la soie, j'ai envie de dire ces routes de la soie, qui étaient autant réelles que fantasmagoriques à l'époque, et qui étaient vraiment l'ouverture d'un monde imaginaire, avec les dangers, avec les histoires d'amour, avec les péripéties de voyage qui faisaient rêver les gens. C'était vraiment un monde onirique fascinant, qui a été utilisé au cinéma, dans les livres, et puis il y a eu, au bout d'un moment, les archéologues, les ethnologues, les photographes, les voyageurs qui ont eu envie d'aller dans une certaine véracité, dans une certaine réalité, pour essayer vraiment de comprendre ce monde. Et puis, c'était aussi la mode des grandes recherches archéologiques où on retrouvait les fouilles d'Afghanistan, d'Iran, de Mésopotamie, etc., où on découvrait des civilisations oubliées dont on n'avait même pas soupçonné l'existence. Et baigné par toute cette culture et par mon âme de voyageuse intrépide, je n'ai pas pu résister à cette envie terrible de parcourir moi-même, bien sûr, avec mon temps, cette route de la soie, donc peut-être grande de 7 à 8 000 kilomètres, et qui commençait vraiment, le début, c'était vers Istanbul ou Ankara, selon les caravanes, et qui sillonnait tous ces pays d'Asie centrale pour arriver à l'ancienne capitale de l'Empire du Milieu, Xi'an.
Voilà. Tout à fait. Alors du coup, vous dites que vous êtes fasciné depuis toujours par ce sujet de la route de la soie. Alors il y a l'aspect onirique de la préparation qui peut durer une vie, hein, ou en tout cas un temps très long. Mais comment on prépare un tel voyage de manière pratique ? Parce que, par exemple, si moi j'ai envie d'aller sur la route de la soie, un peu comme vous ou les auditeurs, on se dit, oui, mais alors, ça paraît quand même assez compliqué. Comment ça se prépare ? Alors, vous stockez des cartes et des piles de livres partout, ou alors vous prenez un billet pour Ankara, parce que vous avez commencé à Ankara, vous, et puis hop, vous vous laissez vous vous laissez porter par la route?
Alors, effectivement, il y a plusieurs réponses pour moi dans cette question. En tant qu'écrivaine voyageuse, étrangement, ça va vous paraître peut-être un peu particulier, je ne prépare rien. C'est-à-dire, le moins j'en sais, le mieux je me porte.
Et c'est ça l'émerveillement.
Et voilà, si j'ai Google Maps et je sais exactement où je vais aller et si j'ai réservé tous mes hôtels, ce n'est pas possible.
C'est plus du voyage.
Pour écrire, alors oui, ça peut être un voyage agréable quand on a peu de temps, mais pour écrire un livre, j'ai besoin d'être dans cette pureté, dans cet émerveillement, dans cette authenticité et dans la surprise des cadeaux, j'ai envie de dire entre guillemets, que les dieux de la route, les dieux de l'errance vont m'offrir à relater dans un livre pour aussi partager. Ça, c'est le côté de l'écrivaine qui parle. Maintenant, évidemment, il y a des choses incontournables, notamment les visas. Les visas, voilà, pour la Chine, c'est indispensable. Il y a beaucoup de papiers d'ailleurs à fournir. Voilà, les billets d'avion, pour certains pays, c'est très facile. Et pour d'autres, on doit s'y préparer. Alors maintenant, c'était évidemment un périple extrêmement long. Il y avait aussi une problématique qui était les climats. Ce sont des pays où, par exemple, le Tadjikistan, pendant 9 mois de l'année, dans le Haut-Pamir, c'est à 5000 mètres d'altitude. Donc pendant 9 mois par an, ils sont complètement coupés du monde. Donc bien sûr, on ne peut pas voyager. Même au Kyrgyzstan, à partir de fin septembre ou début octobre, tous les nomades ont plié les yourtes, ils se sont rentrés dans les villes et on ne peut plus voyager parce qu'il commence à faire moins 20, moins 30. Donc il y avait aussi l'incontournable réalité par rapport au climat. Et comme moi, j'avais besoin de prendre mon temps parce que, évidemment, l'écriture, c'est un voyage plus lent qu'un voyage juste de tourisme ou de découverte. Si je rencontre des gens, je pars à cheval avec les petites associations locales qui emmènent les voyageurs, par exemple, dans les montagnes. Ou si je voyage avec les camionneurs dans le Haut-Pamir pour rejoindre la capitale tadjik, etc. J'ai besoin de temps et pour voyager et ensuite de me poser dans un endroit magnifique et isolé où je peux quand même relater. Parce que l'écriture se fait aussi...
Vous le faites sur place, l'écriture ?
Là, c'est obligé.
Ah, d'accord.
Pour moi, parce que bien sûr, je peux noter certains détails, noter des noms propres ou noter des histoires qu'on raconte. Voilà. Sauf que j'écris dans une poétiquement, avec aussi mes émotions, ce que je ressens, le ciel qui tourne au noir, mes impressions, ce que me dit la personne, son ressenti, ce que nous partageons ensuite. Et tout ça se fait au jour le jour.
Bien sûr.
Le théâtre m'a donné une bonne mémoire. Et
c'est l'instant.
Ça, merci,
c'est l'instant.
Voilà. Et ça, je relate vraiment dans les 3 jours. Il faut que j'ai vraiment passé une grande journée, voire 2 d'écriture, pour pouvoir traduire dans l'exactitude et ma sincérité aussi du moment, vraiment ce qui me traverse pour nourrir au plus fort, au plus poétique mon récit. Sinon, pour moi, ça devient une succession de faits qui n'a rien à voir avec une qualité d'écriture et vibratoire aussi pour emmener les gens en voyage. C'est vrai que c'est différent de relater juste des faits et de les faire voyager à travers la poésie des mots. C'est encore autre chose. Alors, il y avait les climats. C'est pour ça que j'ai décidé de couper ce voyage en 3 parties et de faire 3 fois 3 mois pendant les mois d'été. Ce qui me permettait aussi de ne pas avoir de problème de visa. Parce que certains voyageurs qui décident de partir sur la route de la soie, par exemple à vélo, évidemment à vélo, c'est extrêmement long.
Et puis on ne revient pas. Oui.
Voilà. Ils se retrouvent par exemple en Ouzbékistan et c'est le début de l'hiver. Ils vont être complètement bloqués pour parcourir leur voyage. Ce sont des pays où quand on a une fois un visa en Ouzbékistan, c'est difficile d'en avoir pour le mois d'après. En plus, il y a aussi des sortes de revendications territoriales, par exemple, entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, qui fait que si vous voulez, en Ouzbékistan, avoir un visa tadjik, ça va être extrêmement compliqué. On ne vous donne aucune raison, on vous fait attendre. Au Kyrgyzstan, il n'y a pas besoin de visa et c'est facile pour avoir le visa tadjik. Donc ça aussi, c'est une réalité. Ça peut paraître très compliqué. Après, en vélo, il y a certains pays à traverser, notamment l'Azerbaïdjan, mais on doit avoir le visa pour la suite. Et dans le sens retour, il y a le visa d'Iran qui peut aussi vous être refusé. On ne sait pas. Ce sont des choses très compliquées. Ils n'expliquent pas. Voilà. Donc, c'est... à pied ou sur un vélo, ça peut paraître plus compliqué.
Et vous utilisez les transports en commun ?
Alors moi, oui, c'est le train, le bus, le chameau, l'âne.
Le stop.
Le stop aussi. Alors le stop, ça me fait très très peur parce que je suis une femme un peu trouillarde, malgré les apparences, et surtout très émotive, et surtout blonde, et dans ces pays-là, évidemment.
Ah oui, c'est sûr voilà. Que...
Et le stop, c'est vraiment quand je n'ai pas le choix, c'est-à-dire quand je me retrouve à 5000 mètres, notamment sur le Haut-Pamir, et qu'il n'y a aucun transport, à part certaines jeeps qui se louent quelques jours à l'avance, où ça fait comme un taxi collectif, et parfois, il n'y en a même pas du tout s'il n'y a pas de client. Donc là... Dans les petites auberges locales, ou même en plein mois d'août, à partir de 3 heures de l'après-midi, il fait quand même moins quelque chose. Il y a un vent des steppes avec les yaks, les moutons, la poussière et ces habitations de ces gens qui vivent au bout du monde, vraiment. Les paysages sont complètement lunaires. C'est impressionnant. D'ailleurs, les jeunes qui aiment les périples très sportifs à vélo... Avant, ils allaient au Tibet. Maintenant, le Tibet, c'est extrêmement compliqué pour voyager à vélo, surtout si on veut changer d'état, il y a besoin de beaucoup de visas. Ils arrivent au Pamir et là, ils peuvent, d'un sens à l'autre, traverser tout ce Pamir.
Et voilà. Puis, il faut être sacrément sportif pour le Pamir parce que c'est quand même la montagne.
Moi, je les voyais, mais j'étais assise dans un camion. Donc...
Oui, c'était pas pareil. Alors justement, est-ce que c'est facile d'être une femme sur la route de la soie après la Maillard et quelques autres? Il y a des femmes qui ont pris cette route de la soie il y a bien longtemps quand même, et la Maillard, c'était dans les années 30. Donc voilà, aujourd'hui, si vous comparez vos lectures, justement, et puis ce que vous avez vécu, je pose cette question aussi parce qu'il y a en majorité des pays musulmans jusqu'à la Chine. Donc voilà, une femme seule lancée sur les routes, comment ça se passe?
Alors moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Justement, ce sont des pays qui gardent leurs traditions. Et comme il n'y a pas beaucoup de voyageurs, finalement, malgré tout, malgré le fait que la route de la soie soit connue, il n'y a pas tant que ça de backpackers qui partent avec leur sac au dos et qui cheminent de village en village. Et quand ils voient quelqu'un qui voyagent de cette sorte,
et
vraiment,
seul, et
ils
seul.
Veulent, mmh. et seuls, vraiment, tout le monde est là pour nous aider. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire que parfois, j'ai besoin d'une information, parfois on me dit que finalement, il n'y a pas de bus, on me dit, allez dans cette petite auberge, on va vous aider. Parfois, les gens s'arrêtent en route, me donnent un petit coup de main pour m'emmener quelque part, ou parfois, il n'y a rien à manger parce qu'il n'y a plus rien à manger dans une petite auberge. Voilà, je me suis retrouvée très soutenue. Personne ne m'a jugée, vraiment, j'ai eu, alors évidemment, dans tous les pays musulmans, et d'ailleurs même dans les pays bouddhiques, hein, on n'arrive pas en mini-jupe.
Oui, bon, d'accord.
Bien sûr, il y a quand même des règles, on se couvre, on respecte les gens. Mais quand les gens sentent, surtout dans des endroits extrêmement isolés, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient les voir. Quand vous avez le cœur ouvert et que vous avez envie d'aller vers les autres, déjà en souriant, en étant là, en montrant que vous êtes intéressé, mais les portes s'ouvrent, c'est magnifique. Jamais j'ai eu un seul problème.
Jamais vous n'avez eu peur, donc?
Ah non, j'ai jamais eu peur. Alors par contre, j'ai des règles de sécurité, bien sûr, comme dans toutes les villes. On ne se promène pas à 2h du matin avec tout son argent dans des endroits où les gens boivent de l'alcool. On fait attention. Mais les familles vous rassurent, ce sont les mères de famille. Les gens vivent en famille dans ces pays. Donc, ils vous
Et disent... une femme inspire la confiance, peut-être?
Oui, alors oui, bien sûr, tout à fait. Oui, effectivement. Je me suis même retrouvée, justement, pour prendre cette route du Pamir, dans une vieille auberge où là, je devais attendre un transport hypothétique qui n'arrivait jamais. Et c'était finalement une famille kirghize dont l'autre partie de la famille habitait au Tadjikistan, ce qui arrive souvent avec ces peuples qui ont été séparés arbitrairement par les frontières créées par le régime communiste. Ils étaient tellement heureux d'avoir une étrangère. Bien sûr, je leur ai... payer ma place, hein. Ils étaient très contents. Et on a passé 2 jours d'un voyage complètement fascinant. Bien sûr, le moteur a éclaté en route, les grands-mères, les enfants, on chantait, on mangeait, on buvait, on riait. 2 jours de bus à 5000 mètres d'altitude, c'était inoubliable. Et après, ils venaient là pour leur mariage, pour un mariage de famille. Ils m'ont dit, mais on a vécu tout ça, tu peux pas partir, reste.
Ah bah oui, c'était obligé.
J'ai passé 3 jours à vivre ce mariage au bout du monde. C'était extraordinaire.
Évidemment, on a l'impression quand on vous lit que c'est un peu une succession de miracles, ces voyages. On a l'impression, on a envie de faire exactement pareil. Alors, par exemple, à Tbilissi, en Géorgie, vous rencontrez un photographe et vous concluez cette rencontre en disant « Il m'apparaît que la vie est une série d'images à composer ». Tout à l'heure, vous avez dit « Il n'y a pas de hasard ». Mais moi, j'ai eu l'impression que ces images à composer, elles n'étaient que le fruit du hasard de ces rencontres sur la route.
Alors... c'est un hasard qui n'existe pas, parce qu'en fait aussi, dans la vibration de C'est-à-dire, quand on, dans la vie en général, et le voyage n'est qu'une métaphore, encore une fois, on porte une idée, on porte un projet, on porte dans nos pensées qui existent. Les scientifiques disent, les pensées, c'est de la matière, c'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. On porte cette vibration, ce désir ardent, cette lumière, quel que soit le projet qu'on veut faire. On finit par attirer, comme un aimant, on finit par attirer ce que l'on recherche. Et ça, alors, dans la vie de tous les jours, ça arrive, mais parfois dans la vie de tous les jours, le souci, c'est qu'on est tellement préoccupé par nos horaires, par notre quotidien, par nos contingences, qu'on oublie d'être à l'écoute de ce qui fait la magie intrinsèque de l'existence.
On n'a plus le temps.
On n'a pas le temps parce qu'on est pris. Et moi, la première, quand je cours ici pour venir de Paris, et j'enchaîne un spectacle, un livre, une radio, et c'est tant mieux. Ce n'est pas du tout du jugement. C'est simplement, le voyage apprend à se dépouiller. On est dans le temps éternel, dans le temps n'existe pas, où on ne sait pas où on va dormir demain, on ne sait pas où on va manger dans une heure, on ne sait pas qui on va rencontrer. Et par rapport à cette exploration, ça fait quand même de nombreuses années que je voyage en faisant ces cheminements au long cours.
Hein, 25 ans.
Oui, voilà, 25 ans. Surtout les voyages au long cours, on le sent moins dans des vacances de 15 jours.
Ah bah c'est sûr.
Mais quand on part pour des mois, évidemment, à un moment, on se sent seul. Eh bien, dans ce moment-là, au moment où cette pensée vous traverse, tout d'un coup, il y a une personne qui va vous apparaître comme un ami, à qui vous allez vous confier ou qui va vous inviter à un concert exceptionnel, qui va vous donner cette force d'amitié de l'instant. Et à contrario, parfois, je ressors d'une initiation, par exemple chamanique, en Amazonie, d'une rencontre avec un maître spirituel dans un monastère bouddhique ou autre, ou avec un marabout en Afrique. Je suis imprégnée d'un message qu'on m'a délivré et c'est à moi que la vie va me demander, par cette magie de l'existence, d'aider une personne. Je me souviens d'une jeune femme qui chinoise en Chine, dans le train, hein, entre Urumqi et Kashgar, une jeune étudiante brillante qui pleurait dans la couchette et elle parlait un peu l'anglais, ce qui était merveilleux, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde en Chine. Et je l'ai consolée parce qu'elle me disait, en Chine, c'est difficile parce qu'il faut être le meilleur. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Le niveau est extrêmement élevé pour les études, pour avoir ensuite des postes intéressants. Et elle avait peur de ne jamais être à la hauteur. Au lieu d'avoir A, elle voulait avoir A+. Et voilà. Donc, et c'était moi qui, par une philosophie qu'on m'avait enseignée par la psychologie, qui l'a aidée. Et c'était toujours un échange. Parce qu'une fois, c'est moi qui aura besoin d'aide.
Bien sûr.
Et une autre fois, voilà. C'est le flux des énergies qui circulent. Et en voyage, ça se sent très fort parce qu'on n'est pas dans le quotidien, on est dans l'extraordinaire, on est dans l'initiation, on est dans le présent pur, on n'a pas de projet et on écoute ses intuitions. Et l'intuition, c'est un outil extraordinaire. Quelqu'un vous propose d'aller en haut de la montagne pour un rituel sacré, ça a l'air merveilleux. Je me dis, il y a la grand-mère qui est conteuse, le mari est chaman, la femme vit d'une tribu reculée, méconnue. Waouh, je vais avoir 5 histoires pour mon livre. Et la cousine est conteuse, super, et quelque chose me dit non, n'y va pas. Et parfois, je me suis retrouvée à suivre des personnes. En Afrique, par exemple, aux portes du Kilimandjaro, pas tout en haut, parce que ça, c'est un autre périple, mais dans tous ces villages, dans les jungles autour du Kilimandjaro, un homme à la machette, que je ne connaissais pas, moi je me promenais comme ça, il m'a dit, suis-moi, on va marcher 5 heures, on va partir. Et voilà, il y a un rituel de guérison qui nous attend au-dessus. Il était tellement lumineux, cet homme, que je l'ai suivi. Et à un moment, je me suis dit, attends, il a une machette quand même.
Est-ce bien raisonnable
dans la jungle. Mais c'est pour ça que l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas tellement. Et on le travaille. Alors, beaucoup les personnes qui vont vers l'inconnu, les scientifiques, les artistes, les voyageurs. Mais c'est quelque chose, c'est un outil, mais pour tout le monde, extrêmement positif pour savoir si vous allez signer ce contrat ou pas.
Bien sûr.
Peut-être vous en avez envie, mais bon.
Il faut réfléchir parfois.
C'est ça.
Revenons à la Chine et à la route de la soie. La première ville où vous vous arrêtez, d'ailleurs vous avez prononcé son nom tout à l'heure, c'est la première ville chinoise.
Urumqi.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a, dans ce périple chinois, donc c'est de Urumqi à Xi'an, quel est votre souvenir le plus marquant? Qu'est-ce que vous voudriez transmettre justement de cette Chine du Xinjiang?
Alors, aussi le choix que j'ai fait, c'est de cheminer à l'occidental, selon le chemin de mes ancêtres, c'est-à-dire de partir de la Turquie
d'ouest à l'est.
Et de partir à l'est.
Alors que les Chinois, c'est dans l'autre sens.
Voilà, et les Chinois, c'est dans l'autre sens. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je fais cette route dans l'autre sens? Et non, je vais le faire selon mes ancêtres. Et ce chemin où c'était le couronnement d'arriver à Xi'an, cette cité fortifiée magnifique, où il y a encore tous ces vieux murs d'enceinte qui protègent la ville, avec au-dessus une possibilité de faire du vélo de 14 kilomètres autour de cette vieille ville. Et en arrivant là, je me suis dit, après ce périple de milliers de kilomètres, et c'était aussi le point final à mon livre, je me suis dit, mais les mêmes nomades qui ont cheminé dans des dangers incommensurables, ils arrivaient par caravane de 100, ils dormaient de caravansérail en caravansérail, c'était extrêmement dangereux, il y avait des maladies, il y avait des pillards, il y avait tout un tas de dangers, les climats, les glaces, les chaleurs. Il faut quand même savoir qu'on est dans les montagnes du Tian Shan, ensuite on arrive au désert du Gobi, brûlant de chaleur, et on frôle le désert du Taklamakan, où les nomades se perdaient, parce que c'est un désert extrêmement très très froid et brûlant en même temps.
Mais qui reste dangereux aujourd'hui.
Et qui reste dangereux. Il paraît qu'il y a des tels vents que les gens perdent la tête et ils n'en sortent jamais. Donc ils étaient baignés de tout ça quand ils arrivaient là-bas. C'était extraordinaire. Et moi, là, je me suis dit, oh, je vois les mêmes choses. Il y avait la porte de jade, la porte du tambour, la porte, j'ai pas tous les noms en tête, et je voyais ces mêmes choses. Et alors là, le marché de Xi'an, c'est juste incroyable parce que on a l'impression de se croire dans bazar de Médina aux confins des mondes. Il y a vraiment aussi la Chine musulmane, qu'on connaît moins, avec ces femmes qui sont... Elles redimensionnent la culture musulmane selon leurs idées. Leurs coiffes sont impressionnantes, avec beaucoup de voilages de couleurs et des perles, comme des tiares de princesses d'un autre monde. Je les ai trouvées magnifiques. Et alors là, il y a des montagnes de fruits secs, de toute l'Asie centrale, hein, des saveurs à la grenade, des fruits, des boissons. Vraiment, là, je voyageais dans le temps. C'était Marco Polo que je retrouvais. Et puis les pâtes qu'on tire. Et Marco Polo qui les a trouvés tellement formidables, qui les a ramenés jusqu'en Turquie et évidemment jusqu'après.
Et d'ailleurs, Italie. Vous donnez envie de manger du tofu grillé à la coriandre et au piment.
Ah, c'est délicieux ça, surtout pour une végétarienne. C'était un petit peu difficile en Chine, évidemment, de trouver des plats végétariens. J'avais trouvé une jeune femme charmante qui m'avait marquée en chinois. Je suis végétarienne, j'aime la nourriture sans viande et sans sauce à la viande. Et je trouvais partout, dans ces night markets incroyables, toutes ces brochettes de tofu grillé aux légumes. Donc c'était vraiment un périple fascinant. Et puis de passer, par exemple, à Donghuang, qui est une ville qui était une grande oasis célèbre sur la route de la soie, où là, on se retrouve aux confins encore d'un autre monde. Il y a le désert du Gobi pas loin, et puis il y a ces grottes, les grottes de Magao, qui sont des grottes qui ont été complètement oubliées. Il y a 735 grottes creusées dans la roche, sous le sable du désert, en fait. Et selon les siècles, la croyance bouddhique, évidemment, s'est transformée, parce que le bouddhisme a eu beaucoup de succès sur cette route. Le bouddhisme représentait le karma qu'on peut améliorer dans cette vie, l'existence d'autres vies, la compassion, la loi du cœur, l'entraide, ce qui était très précieux pour les nomades qui pérégrinaient sur cette route où il y avait énormément de dangers. Le bouddhisme s'est propagé, et quand un moine en illumination a eu cette révélation de creuser une grotte, beaucoup d'empereurs, de rois, de princes ont fait creuser d'autres grottes et ont peint au fil des siècles toute l'histoire du Bouddha, des apsaras de paradis, etc. Et alors là, et ça a été redécouvert seulement il y a 70 ou 80 ans, donc on arrive dans ce site qui a été complètement ensablé pendant des centaines d'années.
C'est pour ça qu'il a été conservé.
Il a été conservé de manière incroyable et on retrouve l'histoire du bouddhisme quasi étalée sur plus de 1000 ans. C'est juste fascinant. Et puis à côté de ça, on arrive dans une petite cité du Qinghai, une petite cité où il y a ces lamaseries à Tongren, les lamaseries bouddhiques, où tous les Tibétains de culture tibétaine continuent à faire ces circumambulations et à prier pour améliorer leur karma. Et dans un village voisin à quelques kilomètres, il y a une petite cité incroyable qui est une cité musulmane.
Qui s'appelle ?
Alors, qui s'appelle ?
Non, bon, c'est pas grave. Parce
Lincha.
Que... Ah.
Elle s'appelle Lincha. C'est une petite cité musulmane où alors les minarets sont tout en couleur. Ces femmes ont encore ces coiffes incroyables. Et alors là, on se croit en Orient. Il y a cette langueur des pays musulmans. Les hommes jouent au domino, etc.
C'est une autre Chine.
C'est une autre Chine, mais alors les deux se touchent, sont très très proches.
Ils sont même imbriqués.
Ah, c'est juste alors, incroyable. Alors, comme la mosquée de Xi'an qui ressemble à une pagode.
Ah
la
oui,
très vieille mosquée
ça,
de
oui.
Xi'an. Donc là,
aussi.
Vraiment, pour moi, c'était un voyage, un mariage de cultures différentes voilà, aux confins d'un monde extrême et méconnu, finalement.
Et avant de terminer, une rencontre en Chine qui vous a marqué. Une rencontre, quelqu'un, des gens.
Eh bien, justement, dans cette lamazerie de Tongren... La maserie de Labrang, donc dans le village de Tongren. Mm-hmm. Je suis arrivée dans une petite guest house qui s'appelait la Tara Guest House. Et Tara, c'est le nom de la déesse tibétaine de protection. Et cet homme était d'une telle sagesse, il m'invitait vraiment à cheminer, à faire le tour de cette lamazerie, à dérouler les rouleaux à prière et vraiment de faire mon pèlerinage intérieur. Alors j'ai suivi les Tibétains qui marchaient à une allure vive. Ils étaient vraiment, ils commençaient à faire très froid. Ils avaient un bras à l'air, comme le veut la tradition.
Oui.
Et je cheminais avec eux. Il y avait des femmes extrêmement âgées qui, à chaque pas, s'allongeaient sur le sol, le front sur le sol, pour prier, pour purifier leur karma, pour préparer leur réincarnation ou peut-être leur dissolution dans la lumière afin de ne plus revenir dans ce samsara terrestre. Et cet homme qui m'a introduit à tout cela, qui m'a expliqué avec le bouddhisme, différentes branches de bouddhisme, ou le bouddhisme tibétain, c'est vraiment le bouddhisme où on ne prie pas uniquement pour soi, on prie pour le bien de la planète, le bien des éléments, des animaux, des fleurs, pour vraiment augmenter la paix dans le monde, plus que pour son histoire personnelle ou améliorer sa condition de vie. Donc il m'a vraiment transmis ça, et son regard et sa générosité étaient parfois plus profonds et plus offrants que certains moines qui, de père en fils, sont moines, où finalement on se demande quel est leur niveau de spiritualité en étant moines, parce qu'ils sont privilégiés dans un statut de vie qui les favorise, comparé à d'autres populations qui n'ont pas eu tout ce luxe de vie, hein, bien sûr.
Alors, vous vous êtes arrêté à Xi'an. Votre prochain voyage en Chine ?
Alors oui, mon prochain voyage en Chine. Je brûle de traverser en transsibérien la Russie, le lac Baïkal, bien sûr, en été, du lac Baïkal, le transmongolien jusqu'en Mongolie, la rencontre des chamans et des peuples mongols, pour ensuite prendre le transmongolien et d'arriver en Chine, à Pékin, la cité interdite que je ne connais pas encore. Et ensuite, vraiment, je sens que je dois aller dans le sud-sud de la Chine, là où il y a des paysages époustouflants, et aussi dans le Yunnan et le Sichuan, pour compléter ma culture des merveilles et de la nature et des différentes ethnies qui peuplent ces régions magnifiques.
Bah donc, que de magnifiques voyages en perspective, donc avec un livre, toujours sur le même principe, hein, prendre du temps, écrire sur place.
Exactement. Ça, je crois que ça sera jusqu'à ma mort.
Oui, et donc, du coup, vous résumez bien l'idée du vrai écrivain voyageur. Parce que j'aurais pu vous poser la question, c'est quoi un écrivain voyageur ? Mais vous avez répondu sans que je vous la pose, puisque vous écrivez en voyage. Après, il y a mille façons, autres façons de le faire, mais il est vrai qu'il ne passe pas la même chose si on écrit sur place que si on écrit après avec ses notes. Après, avec les notes, ça permet d'avoir décompté. C'est
oui.
une autre manière.
C'est une autre manière.
C'est une autre manière d'écrire.
Peut-être c'est intéressant pour des petits récits plus courts ou pour certains interviews.
Oui.
Je dis pas le contraire.
Vous pouvez
c'est
faire
vrai,
des nouvelles aussi.
Voilà, pour des petites nouvelles, mais vraiment pour plonger dans une culture, dans un esprit, dans une terre. Il y a aussi cette terre qui vous accueille avec les esprits, avec les croyances. Dans certains pays, bon, vous arrivez, on vous dit mais va au temple ou va faire des offrandes dans la forêt. Demande aux esprits de te guider, de t'aider. T'es pas toute seule comme ça à décider de ce que tu vas faire. Et moi, d'ailleurs, j'invoque les mille et un esprits méconnus je leur demande, aidez-moi, qu'il m'arrive que de l'inspiration sur la route.
Ça a l'air de bien marcher, en tout cas. Yana Bils, merci. Je rappelle donc le titre de votre livre dont je recommande vivement la lecture, « Nos âmes nomades sur la route de la soie » paru aux éditions Unicité.